une grande joie d'être avec vous. Je vous apporte les salutations de tous les collègues de la Société biblique française. Nous allons parler de la vie de Luther. Je vais commencer cet exposé avec l'autre grand monument de la traduction de la Bible, la King James. Et voilà comment les traducteurs, voilà comment ils nous parlent de la beauté de la traduction dans leur préface. La traduction est ce qui ouvre la fenêtre afin que puisse entrer la lumière. Ce qui brise la coque afin que nous puissions manger l'amande. Ce qui écarte le rideau afin que nous puissions contempler le Saint des Saints. Ce qui soulève le couvercle du puits afin que nous puissions atteindre l'eau. Alors je suis très heureuse de partager avec vous cet après-midi, vous qui êtes passionnés aussi de traduction, diffusion de la Bible, nous qui avons le même objectif, manger l'amande et faire manger aux autres cette amande, écarter le rideau, atteindre l'eau. Je vous propose donc une visite guidée de ce projet de révision de la Bible en français courant. Je serai très spécifique sur ce projet, mais on m'a demandé aussi, parfois, de donner des exemples et des illustrations plus larges sur ce que représente la traduction du texte biblique. Quelques mots d'abord de présentation de la Bible en français courant, même si je sais que vous la connaissez tous sans doute très bien. C'est une Bible portée, réalisée par l'Alliance biblique française pour l'ensemble des sociétés bibliques francophones. On va beaucoup parler francophonie ensemble, et c'est bien aussi une des choses qui nous unit. Elle a été publiée pour la première fois en 1971, c'était pour le Nouveau Testament, 1982 pour la Bible en entier, et une première révision en 1997. C'est une des Bibles françaises les plus connues et répandues, alors ce n'est pas la Bible la plus connue comme ça a été traduit dans certains textes, hein, mais une des Bibles françaises les plus connues, pour donner des chiffres récents, et vous l'avez sur votre photocopie, en 2014, plus de 75 000 exemplaires dans le monde entier, et si on prend seulement des morceaux comme les psaumes ou les évangiles, on monte à 100 000 exemplaires. Cette version est aussi celle qui se trouve dans The Bible, qui a été un grand succès pour la jeunesse, ou dans la Bible expliquée, ou dans l'interlinéaire grec et hébreu. Et puis il faut aussi savoir que c'est cette Bible, la Bible en français courant, qui est le repère pour les traducteurs qui essayent de traduire dans les pays francophones, une trentaine de pays francophones, qui s'inspirent de la TOB et de la français courant pour leur travail. Elle est aussi beaucoup utilisée dans les églises pour la catéchèse, et à Thésée par exemple, la communauté de Thésée, les jeunes lisent la Bible en français courant. Elle est utilisée dans tous ces pays francophones. Elle est de plus en plus utilisée par les catholiques, même si elle est interconfessionnelle et qu'on pourrait la rencontrer dans tous les milieux. Quand elle est sortie en 1982, la Bible en français courant était la première à mettre en œuvre ce qu'on appelle la traduction à équivalence dynamique pour une langue française. C'était la première. Alors je vais nous rappeler ces deux grandes familles qui existent de traductions. Les traductions littérales ou formelles, en fait, ce sont la plupart de nos traductions en langue française encore aujourd'hui, Darby, Jérusalem, Second et tous ces dérivés, et même la TOB. Donc, comme vous le savez, elle privilégie la langue source. On essaye d'être dans un décalque, une équivalence formelle. Le texte français est calqué sur le grec ou l'hébreu. Et on essaye donc d'être vraiment dans le décalque. Le risque, le problème, c'est de ne pas être compris dans la langue réceptrice. Vous connaissez ce passage de 1 Pierre 1,13, où on peut lire dans ces traductions formelles « saigner » du verbe « ceindre », fermer sa ceinture, « saigner les reins de votre entendement ». Je ne sais même pas comment le traducteur va faire, parce que c'est incompréhensible en français. Alors en allemand, voilà, c'est quand on essaie d'être littéral dans l'image qui est utilisée de « boucler sa ceinture » pour les reins de son entendement. Alors que le sens de cette expression, c'est « tenez votre esprit en éveil, disposez votre intelligence pour le service ». Donc voilà pour les traductions littérales. Et puis donc les traductions à équivalence dynamique, grâce au progrès de la linguistique, sont apparues là, il y a une trentaine d'années. Et là, on privilégie la langue réceptrice. Pour la langue française, on aura la Bible du Semeur, la français courant ou Parole de vie, la plus récente. Et donc là, il s'agit de privilégier les structures de langage de la langue réceptrice. Prenons l'exemple de Jérémie 17:10. Une traduction littérale ou formelle dira « Moi, le Seigneur, je sonde les reins, Ça, c'est le travail d'un néphrologue, d'un spécialiste des reins. Vous voyez, je sonde les reins. Qu'est-ce que nos contemporains comprennent en entendant « je sonde les reins » ? On a été bien dans le décalque de l'image de l'hébreu, mais la langue réceptrice te demande ce que ça veut dire. Dans une traduction dynamique, on dira « je perce le secret des consciences ». Et donc, vous voyez, ce problème de traduction de la Bible, on l'a aussi évidemment dans les autres corpus, hein, pas que bibliques. Récemment, Paris a été frappé par une vague terrible d'attentats, et on a vu refleurir partout le slogan, la devise de Paris en latin, et avec le choix dans la traduction, soit littérale, soit dynamique. Une traduction littérale, il est battu par les flots, mais il ne sombre pas, et une traduction dynamique, touché, mais pas coulé. Vous voyez ? Donc selon les publics, hein, on a vraiment des traductions ici différentes. Et donc la Bible en français courant, la première, on va dire en langue française, à mettre en œuvre ce principe d'équivalence dynamique. Bien sûr, en allemand, il y avait la gute Nachricht dont on a parlé, et good news en anglais. La caractéristique de ces traductions, c'est des phrases courtes, on limite le nombre de subordonnées, on respecte la syntaxe française, quitte à bousculer et quitte à ne plus tout à fait correspondre au grec ou à l'hébreu. On va par exemple préférer des verbes. Les Français aiment les verbes, là où on trouve beaucoup de substantifs. On va beaucoup plus, vous voyez, coller à la syntaxe française. On va expliciter ce qui ne va pas de soi pour le lecteur, au risque peut-être deux fois de la surinterprétation. Et on va choisir un vocabulaire usuel, non pas populaire, non pas familier, mais en tout cas usuel. On va faire aussi attention à l'oralité du texte. Qu'est-ce que ça donne quand je lis ce texte à voix haute ? Est-ce qu'il y a une ambiguïté ? Alors, en protestantisme, on n'a pas la Bible de la liturgie, hein, que viennent d'avoir les catholiques, mais donc on doit faire aussi attention à cette oralité du texte. Par exemple, au lieu de... Et encore pardon pour le traducteur. Il a bâti le mur. Il a bâti, il a détruit, ou il a construit, il a bâti le mur. Voyez l'ambiguïté qu'il pourrait y avoir dans l'oreille du lecteur. Donc, le projet de révision... Vous savez, une révision, on estime qu'une Bible a besoin d'une révision environ tous les 20 ou 25 ans. Donc quand on se décide à réviser, on veut garder l'esprit de la première révision, on veut garder ce qui a pu faire son succès, mais en modifiant, améliorant. Et là, dans le cas présent, comme elle était la première à mettre en œuvre les principes d'équivalence dynamique, eh bien, elle cherchait encore peut-être le curseur, et on a vu, avec les progrès, si vous voulez, de la linguistique, qu'on pouvait tout à fait être dans l'équivalence dynamique et être poétique, faire attention aussi à la forme, et on pouvait davantage coller au grec et à l'hébreu sans surinterpréter. On a vu petit à petit, donc, comment être vraiment respectueux à la fois du texte et de la langue réceptrice. Comment est-ce qu'on procède pour un tel chantier ? Eh bien, vous êtes les tout premiers à qui on présente hein, ce chantier. Sachez que ça a commencé en janvier. Donc vous voyez, vous êtes vraiment là encore dans les briques hein, et la poussière du chantier de tout début. On a d'abord constitué une équipe. Je vous parle de 55 collaborateurs et réviseurs. C'est bien un travail d'équipe dont il est question. Et c'est un privilège aujourd'hui d'avoir Innocent Imbaza aussi, qui est un des réviseurs et collaborateurs de cette Bible. Donc si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez aussi aller le voir. Donc ce travail d'équipe, la première équipe, la première étape, c'était de constituer cette équipe. Chacun s'est vu confier un livre ou deux livres. Et nous avons veillé particulièrement à trois critères dans le choix des personnes. Un équilibre dans les différentes sensibilités du christianisme. Nous avons des catholiques, des protestants, de toute la famille protestante, et même un orthodoxe. Nous avons veillé aussi à un équilibre des origines géographiques, culturelles. Les réviseurs nous viennent de France, de Belgique, du Canada, d'Afrique. Alors pour l'Afrique, c'est la RDC et la Côte d'Ivoire. Et bien entendu, vous l'attendez, de Suisse. Nous avons aussi des collaborateurs venant de Suisse. Et puisque mon public est suisse, je peux vous citer les noms que vous connaîtrez donc sans doute. J'ai parlé de Innocent, mais vous avez aussi Philippe Guillaume, local, hein, il est ici, de Berne, même si en ce moment il est un peu plus loin. Jean-Daniel Maki, Daniel Marguera ou Simon Bouticaz pour les Suisses. Et puis nous avons fait attention aussi à l'équilibre dans les sexes, d'avoir des hommes et des femmes. Vous savez que dans beaucoup de projets bibliques, les femmes sont encore les grandes absentes, et donc nous avons une dizaine de collaboratrices, on va dire, dans les réviseurs. Le comité de référence, c'est celui qui accompagne vraiment l'ensemble du projet et que je pilote, est aussi à l'image de cette diversité, on va dire culturelle, de sexe et confessionnelle, avec Roselyne Dupont-Roc de la Cato de Paris, Thierry Legrand de Strasbourg, moi-même et Elsbeth Scherer de l'Alliance biblique. Quand on a trouvé la bonne équipe, la Dream Team, eh bien ensuite il faut leur dire comment travailler, parce que ce ne sont pas seulement le feeling, on a tous peut-être des choses qui nous plaisent ou qui nous plaisent moins dans un texte, il s'agissait de leur donner un cahier des charges, de leur dire dans quelle direction réviser. Alors on a fait un état des lieux, on est allé à la rencontre des lecteurs, des enseignants, des pasteurs, des prêtres, pour savoir, après 30 ans d'utilisation de cette pensée courante, quel retour ils avaient aussi à nous faire. Et donc on a eu un questionnaire et on a eu énormément de réponses qui nous ont aidés, de la part aussi des sociétés bibliques sœurs, qui nous ont aidés à dresser cet état des lieux et ce cahier des charges. Et voilà un petit peu quelques-unes des grandes lignes qu'on a demandé donc aux réviseurs. D'abord l'adaptation du vocabulaire, puisque la langue française ne cesse d'évoluer. Et le problème quand on privilégie la langue réceptrice, c'est qu'il faut être sûr que le public comprenne bien le mot tel qu'on voulait qu'il soit compris. Or, la langue française évoluant, eh bien parfois le lecteur peut être amené sur des voies qui n'étaient pas celles du texte biblique. Voilà donc des mots qui sont actuellement dans la Bible en français courant et qui vont être sans doute amenés à disparaître. Je vous annonce leur décès futur, proche. Le mot « guerre sainte », le mot « fanatique », le mot « compatriote », on sait qui aujourd'hui utilise ce vocabulaire-là, le mot « race » ou même « frère de race ». Ça va pour la traduction ? Eh oui, je ne sais même pas si en allemand vous osez. Il y a des changements qui ont été faits depuis longtemps en allemand, et donc ça doit vous paraître étonnant qu'en français on ne les a peut-être pas encore faits. Race. Ou alors des mots un peu familiers aujourd'hui comme caïd, des mots comme ça. Donc on doit veiller dans le choix du vocabulaire aussi à ce qu'il soit compris dans toute la francophonie. Et pour prendre un exemple suisse, il y a des mots qui ont des connotations vraiment marquées dans certains pays, et on doit faire attention du coup à ne pas les utiliser. Comment le lecteur suisse qui rencontre ce mot va réagir? Par exemple, quand on a voulu réfléchir au Sanhédrin, donc l'assemblée de décision pour les juifs, en Suisse on a évité le Grand Conseil, qui était une de vos instances fédérales. Pour pas qu'il y ait un anachronisme, si vous voulez. Voilà. Donc on a choisi un autre terme. Il y a, vous le savez par contre, des traductions qui, elles, font le choix d'une très forte inculturation, et on ne va pas aussi loin dans la Bible en français courant. Par exemple, les pays qui n'ont pas de vigne vont traduire la vigne par l'arbre à vodka. Alors il ne s'agit pas de ça dans la français courant. Ou bien dans les pays où on n'a pas de figuier, on va traduire l'épisode du figuier maudit par le bananier maudit. Pour être sûr que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Un figuier ou un bananier, voilà. Donc quand je vous parle d'être compris dans la langue réceptrice, c'est pas de cette inculturation-là dont il est question. La difficulté du lexique, puisque les mots ne sont pas des étiquettes interchangeables. En fait, la difficulté, c'est aussi quand le mot grec ou le mot hébreu veut dire plusieurs mots, et qu'en français, nous n'avons pas trouvé un mot qui ait exactement aussi tous les mêmes sens. Alors, bien sûr, vous connaissez l'exemple du paraclète. Comment gérer ce mot de paraclète, qui est à la fois le consolateur, le défenseur, l'avocat, celui qui encourage, qui exhorte. Il faudrait une Bible avec des barres, vous savez, des slashes, où on puisse dire tous les sens d'un seul mot. Ben non, en tant qu'éditeur, en tant que traducteur, on doit en choisir un seul. Choisir, c'est renoncer. Alors à ce moment-là, évidemment, la place des notes va être importante. Mais voilà la difficulté aussi quand on ne trouve pas, évidemment, l'exacte équivalence entre les mots ici. Comment va-t-on faire aussi? Moi, j'ai la chance d'être au début du chantier, donc je peux en rester encore à des questions. Je n'ai pas toutes les réponses. Quand la Bible est déjà en train d'être imprimée, ils ont déjà les réponses. Donc là, je vous le soumets sous forme de questions. L'hébreu, qui est une langue concrète, impressionniste, alors que la langue française est abstraite, pour parler de la tendresse de Dieu, va parler de Harim, de l'utérus de Dieu. Vous n'avez jamais vu une seule traduction de la Bible avec le mot utérus. Alors présentez-moi là. On parle des matrices chez Chouraki, vous voyez, ce sera peut-être lui le plus audacieux, mais on n'a pas le mot utérus. Alors que l'hébreu utilise ce terme-là au pluriel pour parler de la tendresse de Dieu. Et donc, par exemple, un verset, si vous voulez aller voir comment c'est rendu dans votre Bible, Lamentations 3, 22, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n'est pas au bout de son amour. Les bontés du Seigneur ne sont pas à leur terme. Littéralement, la tendresse de Dieu, l'utérus de Dieu frémit pour vous. Comment est-ce qu'on va à la fois être compréhensible dans la langue réceptrice et garder, vous voyez, l'image ici de la traduction. Alors, Martin Luther, puisqu'on vient de parler de lui pour faire le lien avec ce qu'on a entendu, voilà comment lui-même décrivait la difficulté à rendre l'hébreu si concret dans une autre langue, et pour lui c'était l'allemand. Je sue sang et eau pour donner les prophètes en langue vulgaire. Bon Dieu, pardon, c'est lui qui s'exprime, quel travail et combien difficile de forcer les écrivains hébreux de parler allemand. Ne voulant pas abandonner leur hébraïcité, ils refusent à se couler dans la barbarie germanique. Vous voyez la difficulté là, voilà, de cette langue qu'on éprouve la même. Et j'ai la suite de la citation, qui est apocryphe semble-t-il, mais je vais quand même la donner parce que l'image est intéressante. C'est comme si le rossignol, perdant sa douce mélodie, était obligé d'imiter le coucou avec sa note monotone. Le rossignol pour un mot. Désolé, mais c'est Luther lui-même qui parle de sa langue. Donc vous voyez la difficulté à rendre aussi l'hébreu, ici très concret, dans une langue comme la langue française, qui elle aime les abstractions. Elle aime les abstractions. Alors nous portons un grand intérêt, très grand intérêt, au choix des mots. Nous pensons au lecteur. Je conseille à chaque réviseur de penser à un lecteur type, quelqu'un qui, voilà, quand il écrit, quand il choisit, quand il révise, de penser à un lecteur type. Car comme le disait le philosophe Lévinas, dans chaque mot, il y a un oiseau aux ailes repliées qui attend le souffle du lecteur. Il attend le souffle du lecteur. Alors il faut penser à ce lecteur au moment où on révise et où on traduit. Donc premier axe, le vocabulaire. Il faut rester vraiment, vous voyez, dans une langue réceptrice pertinente, en restant fidèle. Deuxième axe de révision, favoriser une traduction moins sexiste. Et je n'ai pas consulté ceux qui ont déjà parlé avant sur le sujet, mais quand le texte biblique inclut les femmes et que la langue française, dans sa traduction, les a exclues, il y a une difficulté, il y a un problème. Donc ici, il s'agit non pas de réécrire la Bible, non pas de changer les textes, mais au contraire de revenir à ce que le grec ou l'hébreu voulait dire. Si le grec et l'hébreu incluent les femmes, il ne faut pas que la langue française, en ayant traduit « homme » partout, les exclue. Donc, on a un vrai effort par rapport à ça pour choisir le mot « être humain »,« humanité », »,« personne », »,« quelqu'un », »,« celui qui ». C'est très variable. En fait, c'est de la dentelle, c'est au cas par cas. Il ne s'agit pas de faire un changement, si vous voulez, aveugle, mais c'est vraiment de la dentelle au cas par cas. On est en train d'étudier ça ici. Surtout que les traductions en langue française sont bien en retard par rapport aux traductions, on va dire, en allemand ou en anglais sur le sujet. Un exemple, c'est 2 Timothée 2, 2, et en plus quand c'est dans le corpus polynien sur les femmes, c'est plus intéressant. Ce que tu as entendu en présence de nombreux témoins, cher Timothée, confie-le à des hommes dignes de confiance, qui eux-mêmes seront capables de l'enseigner. Voilà, donc il y a un homme, Timothée, qui enseigne à des hommes dignes de confiance. Donc tout ça, l'enseignement, c'est bien une histoire d'homme, vous voyez. Eh bien, le grec ne dit pas du tout cela. Et lorsque les premiers auditeurs entendaient le texte, ils entendaient anthropos, datif pluriel anthropos, ils entendaient un mot qui veut dire « et homme et femme ». Cet enseignement que tu as reçu, transmets-le à des personnes dignes de confiance. Avec l'allemand, avec Mensch, vous n'avez pas ce problème. Mais en français, avec le choix d'avoir mis homme pour inclure aussi les femmes, ça a inclus, sur des passages sensibles comme celui-là, ça inclut des erreurs de lecture. Alors que c'était pas du tout une question là pour l'auteur dans Timothée. Troisième axe, éviter les surinterprétations, les passages où la traduction va au-delà du texte. Les traducteurs appellent ça la tentation de la glose. Tentation de la glose, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie d'aider le lecteur, on a envie de rendre explicite ce qui est implicite. Et là, la frontière est ténue, et heureusement, il y a de plus en plus de Bibles avec notes, et depuis, si vous voulez que c'est vraiment quelque chose d'acquis, on peut passer plus de choses dans les notes quand on a besoin d'expliciter aussi des choses. Vous avez l'exemple dans votre polycopier de 1 Jean 5, 6, où le texte est assez incompréhensible et où le traducteur a voulu donc aider en donnant une des interprétations possibles de ce passage. Jésus-Christ est venu à nous avec l'eau de son baptême et avec le sang de sa mort. Parce que si vous entendez seulement « il est venu avec l'eau et avec le sang », c'est un peu incompréhensible. Ben peut-être c'est le genre d'ajout de son baptême et de sa mort qui n'est pas dans le grec, qu'on pourra basculer en note pour expliciter, et peut-être pas à laisser dans le texte ici. Pour aider le lecteur, la question que ça nous pose à tous, et c'est pareil aussi quand on traduit, mais quand on prêche, est-ce que traduire, c'est trahir? C'est évidemment cette question-là qui est au cœur aussi de notre métier. Est-ce que traduire, c'est toujours trahir? Non, mais c'est en tout cas toujours interpréter. C'est en tout cas toujours interpréter. La traduction n'est pas inspirée, on espère qu'elle va être inspirante, mais la traduction n'est pas inspirée, nous n'avons pas les originaux, on les a perdus depuis longtemps, et si vous voulez, nous n'avons pas ici, on doit être très modeste par rapport à notre travail. Alors il y a bien eu des théologiens au XXe siècle, aux États-Unis, pour affirmer que Dieu choisit dans chaque langue une Bible dans laquelle il se révèle. Alors il y a la Luther Bible dans laquelle il s'est révélé, la King James, oui mais on a un problème, c'est qu'en langue française ça ne marche pas. Il n'y a pas cette théologie qui ne peut pas marcher avec la langue française, puisqu'on a toujours eu dès le début, en compétition, une Bible protestante et une Bible française, une Bible catholique, hein, Olivetan, voilà. Donc ça ne marche pas cette théologie-là, et on sait très bien que ça n'est pas juste. Oui, les traducteurs font un formidable travail, et priez pour les traducteurs, guidés par l'Esprit. Mais traduire, c'est toujours interpréter. Traduire, c'est toujours un parti pris. Par exemple, dans le manuel des traducteurs qu'on nous remet quand on commence un projet comme celui-ci, voilà ce qu'on peut lire. Il n'est pas possible de traduire sans déterminer le sens des textes grecs ou hébreux. Évidemment, il faut d'abord comprendre ce que veut dire le grec ou l'hébreu pour pouvoir le rendre dans sa langue. Et donc le manuel poursuit, à cet égard, l'interprétation fait intégralement partie du processus de communication au cours duquel un message conçu dans une langue est présenté dans une autre langue. Donc traduire, c'est interpréter. Ça n'est pas de la mauvaise volonté, mais ça fait partie du processus, si vous voulez. Rien que dans les évangiles, le manuel donne comme exemple, rien que dans les évangiles, il y a plus de 700 endroits où il y a une ambiguïté. Une ambiguïté. Il faut que votre traducteur, lui, fasse un choix ici. Donc ça, cet enjeu de la traduction, trahison, interprétation, les anciens la connaissaient déjà, puisque vous connaissez ce proverbe tiré du Talmud, « Il ment celui qui rend un verset mot pour mot de façon strictement littérale. » Il ment. « Il blasphème celui qui y ajoute quelque chose. » Donc voilà l'alternative, mentir ou blasphémer. Vous voyez, on a le choix entre le mensonge ou le blasphème. Non, vous voyez, c'est intéressant de voir que c'est une problématique depuis longtemps. Quatrième et dernier axe pour la révision, c'est la reprise des introductions. Les introductions. Nous voulons encourager le lecteur dans sa lecture de la Bible, et donc, les introductions sont en train d'être repensées pour offrir des clés de compréhension au texte, mais aussi montrer la pertinence et l'actualité de ce texte. On s'est dit qu'il y avait ici un effort à faire et que ça manque dans beaucoup de nos traductions actuelles. On donne beaucoup dans les introductions des éléments de contexte, mais si on essayait aussi dans le texte, j'allais dire dans l'objet lui-même Bible, d'encourager à montrer la pertinence et l'actualité de ce texte-là. Comme le disait Mark Twain avec humour et malice, vous connaissez Mark Twain pour Tom Sawyer, mais il a écrit d'autres choses. Il disait, dans la Bible, ce ne sont pas les passages que je ne comprends pas qui me chagrinent, mais ceux que je comprends. Il y a pas mal de passages clairs et encore pertinents et actuels pour aujourd'hui qui dérangent. Alors peut-être un petit mot de conclusion. Nous avons maintenant l'équipe de réviseurs. Nous avons le comité de référence, nous avons le cahier des charges. Pour reprendre l'expression de l'un d'entre nous, maintenant c'est roule petit bolide, maintenant c'est en avant, et maintenant c'est au travail, si vous voulez. On est au début de ce processus. L'échéancier, nous avons commencé en janvier, et nous avons 2 ans pour mener ce projet. C'est-à-dire que les réviseurs, et Innocent l'a sans doute stabiloté dans son agenda, ils le savent, les réviseurs rendent leur travail pour octobre, donc cet été ils vont bien fumer, ils rendent leur travail pour octobre. Nous avons ensuite quelques mois pour intégrer, analyser, décortiquer toutes leurs propositions de modification, harmoniser entre les différents livres, parce que quand vous modifiez quelque chose là, il faut l'harmoniser ailleurs. Et puis nous allons donc rendre ce travail au 31 décembre 2017 à minuit, et nous aimerions une sortie pour l'automne 2018. Vous dites, qu'est-ce qui se passe entre le 31 décembre 2017 et l'automne? C'est le travail des imprimeurs, c'est le travail de l'imprimatur, c'est tout un travail encore, hein, une fois que le texte est rendu. Et nous espérons une sortie pour l'automne 2018, ça correspond aux 200 ans, c'est l'anniversaire de la Société biblique française. Donc pour les 200 ans, 2017, tout le monde sera fatigué, il y a tellement de choses en 2017, vous voyez, voilà. En 2018, comme ça, on aura cette Bible, si vous voulez, à présenter. J'avais à cœur d'échanger avec vous un poème pour terminer. Je sais que c'est très risqué avec la traduction, mais voilà, c'est quand même un poème qui me plaît beaucoup sur la Bible, alors que j'avais envie de vous laisser, de Christian Bobin. La Bible, un livre impossible à tenir entre deux mains calmes, pour une lecture sage, lointaine. Il s'envolerait aussitôt, éparpillerait le sable de ses phrases entre les doigts. On prend le vent entre ses mains et très vite, on s'arrête comme au début d'un amour. Je vous remercie.